On fait ce shiur le refouat Michael Aharon Abraham Ben Sabine Josiane Kachem lui envoie refouat Shema Betor Kosh Acholé Am Israël. La question de Jérémy.
Comment est-ce qu'on peut faire pour s'habituer à avoir la présentation de tous les jours et la hachette rapatique qu'Hachem peut faire en nous? Comment est-ce qu'on peut faire pour voir Hachem à chaque instant dans notre vie?
C'est une bonne question. Il n'y a pas de recette abracadabrante, enfin abracadabra, de quoi Hachem est devant nous. Il faut savoir que ce que tu dis maintenant, ce que tu demandes, c'est le but le plus haut de chaque juif. Avoir la conscience de la présence d'Hachem ici, proche de nous, parmi nous. Tout ce qui s'ensuit, donc sa crainte, son amour, sa shgacha, comme tu dis, sa providence spéciale sur nous, c'est un très 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 haut niveau. Il n'y a pas de recette miracle où du jour au lendemain on est là-bas. Par contre, il y a un travail à faire, un travail de fourmi. C'est-à-dire qu'on avance à pas de fourmi. Les fourmis sont petites, mais font beaucoup de travail. Si on fait tous les jours un petit pas, au bout d'un moment... C'est marqué, Chazal on dit, Kovetz Aliad Yerbe. Celui qui. Kovetz, qui.
Rassemble.
Aliad peu à peu, il aura beaucoup. Les méthodes rapides, elles ne tiennent pas longtemps. Les méthodes lentes et sûres, alors elles ramènent. Ça, c'est en préambule. Ça vous voulez ce sujet-là? C'est bon? Ça vous. Hein? D'abord, il faut du moussard. Le moussard, c'est la seule arme qui me permet de faire face à la réalité de ce monde. La réalité de ce monde, elle est mensongère. Qu'est-ce qu'elle me dit, la réalité? Elle me dit qu'Hachem n'est pas là. Je ne vois pas. Je ne le sens pas. Je peux, avec beaucoup de réflexion et de raisonnement, comprendre qu'il est là. Mais sentir, je ne vois pas, je ne sens pas. Et depuis qu'on est né, on a été habitué, notre âme miskena, qui vient de, sous le trône de gloire d'Hachem, fait des millions de milliards d'années-lumière pour venir dans ce corps grossier, elle n'a plus aucun message d'Hachem quand elle est née. Elle, on va l'habituer à vivre d'après les sensations du corps, les cinq sens. Beaucoup plus tard durant l'histoire, de l'être humain, vers 15, 17, 18, 20, il y en a qui se réveillent presque jamais non plus, on commence à réfléchir, à avoir une autre dimension. On est très habitué à ce monde, et ce monde, il nous submerge. C'est ça, la réalité. Quand tu dis à quelqu'un aujourd'hui, je vais aller à Shiva, ouais, ça amène quoi? Tu auras un diplôme, tu peux être rabbin, tu peux être juge rabbinique, non, on continue comme ça. Ben, sois réaliste. La réalité, elle est... Ce que eux appellent réalité, c'est la réalité de ce monde-là, qui me dit, t'es venu pour bosser. Bosser, faire des sous-sous, te marier, avoir une maison, avoir une voiture, avoir des honneurs, avoir des vacances, et crever. Aller au resto, de temps en temps. Ça, c'est sans le divorce, sans le... D'accord, c'est le SMIC. Et nous, on dit, c'est pas la réalité. C'est pas du tout la réalité, c'est un mensonge. Ça, c'est rien, c'est une malédiction. C'est vrai qu'il y a une certaine réalité pareille, mais c'est pas ma vraie réalité. La vraie réalité, je suis un serviteur d'Hachem, je me réalise en le servant, en me rapprochant de lui. Et tout ce monde-là, ce sont des épreuves. M'éloignant de lui, et je dois tout faire pour me renforcer et comprendre et franchir ces épreuves et pas me laisser avoir. Et c'est ça la vraie réalité. Mais elle est très dure, bien qu'on la connaisse. D'abord, elle est dure à connaître. Une fois qu'on la connaît, la réalité, la fausse réalité de ce monde-là, nous l'a fait oublier sans cesse. D'après la vraie vérité, on dit la fausse la réalité de ce monde et la vraie vérité, on va dire ces deux termes, d'accord ? D'après la vraie vérité, cette table n'existe pas. Dans la réalité de ce monde... La table existe. Hachem n'existe pas. D'accord. La table, je la vois, c'est du concret. Hachem, il est où ton Hachem? Je ne vois pas. Pourquoi dans la vraie réalité, la table n'existe pas? C'est la science qui reconnaît aujourd'hui. Elle dit, c'est rien, c'est de la poudre aux yeux. La table est constituée d'atomes. Les atomes sont constitués de noyaux et d'électrons qui tournent très loin.
Ce n'est pas des choses qui nous parlent. Compliqué, ce n'est pas des choses concrètes.
Non, je t'explique maintenant à quel point le monde qu'on appelle réalité, il est faux. Donc nous devons trouver les astuces, les outils qui nous permettent de ne pas tomber dans le panneau. Il faut comprendre que le panneau, il est énorme, il est grand. On est plongé dans cette réalité qui est un grand mensonge. Donc c'est juste pour la table, d'accord? La table, elle est formée de noyaux et d'électrons qui sont très très loin, très loin autour des noyaux. Si les noyaux sont grands comparativement à mon point, les électrons tournent à 2 km. Donc il y a plein de vide. Si je prends tous les noyaux et les électrons de cette table, je les réunis tous en levant tout le vide, c'est invisible à l'œil nu, c'est zéro. Plus tout le vide, c'est encore zéro. Zéro plus zéro, combien ça fait? Ça fait zéro et je vois une table. Ça veut dire que c'est une fiction. Ah, pourquoi je la vois? Il y a des champs électromagnétiques qui font que les photons rebondissent sur le champ électromagnétique et tout touche ma rétine. Si je m'écrase le nez très fort sur la table, si je m'écrase sur le nez de quelqu'un, c'est le champ électromagnétique de la table qui a écrasé le champ électromagnétique de son nez. D'accord, Misken. Mais ce sont que des champs. Et tout ce monde-là, attends, il y a mon ego, super grand, gros, super orgueilleux. Toute ma vie, c'est moi. Super envieux. Qu'est-ce qu'il aime les plaisirs de ce monde? Tous les plaisirs, tout ce qui est bon, tout ce qui est bon, tout ce qui est bon. La nourriture, les filles, le lit, l'amour du lit. La paresse, le rien faire. Un ego énorme. Qu'on a flanqué aussi à cette neshama. Et c'est quoi? C'est un esca, un mammouth qu'il faut bouger. Mammouth mort, là, il faut le réveiller. Qui est aussi un mensonge. C'est pas moi, c'est mon corps. Je ne suis pas mon corps. Donc tout ça pour dire que nous sommes entourés de beaucoup, beaucoup, beaucoup de mensonges. Mais Baruch HaShem, on a une échama qui vient de Dieu. Et Dieu est plus fort que tous. Bon, je dois me brancher. Je dois me... Tous les jours, je dois étudier du moussard et pas que lire. La lecture, c'est la... l'information. L'information, je dois maintenant la hachava et la lève, la faire amener au cœur, au vécu. Comprends. Alors, je vois des messages, du bourrage de crâne, c'est vraiment du bourrage de crâne, bourrage de crâne. Comme je suis en train de faire maintenant, ce monde, parce que tout le monde sait que ce monde, c'est un monde de mensonges. Maintenant, quand j'en parle, je donne des exemples, etc. Tu sors du cours pendant trois quarts d'heure, tu comprends, ah ouais, c'est de la blague ce monde, c'est absolument rien. Ok, tu vas au repas déjà, ouais, c'est de la blague, mais quand même c'est bon. C'était bien le cours du Rav Shaya, d'accord? Passe-moi le coca, un peu de coca, d'accord? Mais on retombe tout de suite, c'est très dur. Donc il faut se renforcer sans cesse là-dedans. Sans cesse pour rappeler. Donc là, la chose numéro un, c'est moussard. Ensuite, moi, je dirais prière. Dans deux axes. Un, d'abord, parce que sans que Hachem nous aide, on n'a aucune chance contre le mal, il est beaucoup trop grand. Donc, implorer Hachem de nous sauver du Yetzer Hara. J'ai entendu, lors du Hesped, l'oraison funèbre du Rav Nissim Toledano Zatzal, qui est décédé environ il y a deux semaines, donc à Bnei Brak, il y a eu à Lederman, les oraisons funèbres. Là-bas, son frère a dit que leur grand-père, Rabbi Ervel Baruch Toledano, un des grands rabbins du Maroc, ben, il se levait toujours à minuit et il pleurait. Il pleurait pendant longtemps, pleurait à Hachem, sur deux choses. Premièrement, il pleurait qu'Hachem le sauve du Yetzer Hara. Deuxièmement, il pleurait que ses descendants restent dans la Torah. Et bien, Nara, tous que je connais, tous les descendants, tous les Toledano, c'est tous des Rachel Yeshivot, Rachel Kolel, ils sont tous très bien réussis, Baruch HaShem, de ces prières-là. Mais Rabbi Raphaël Baruch, avant, ses enfants priaient pour lui, sauve-moi du Yetzer Hara. Donc il faut implorer HaShem qui nous sauve. Sans ça, on n'a aucune chance. Deuxième acte de la prière, le fait que de prier HaShem nous met en relation avec HaShem. Une vraie prière. J'ai une belle histoire maintenant. Je vais aller voir un ami qui est le pauvre et. C'est un très bon ami à moi et son fils maintenant est celui pour qui on fait la réfoie maintenant. Il est dans le coma, ça va être très, très, très difficile. On a parlé un peu et on a parlé que que je donne l'exemple d'Yitzhak. Yitzhak Avinu, il n'a pas d'enfant. Pendant 20 ans, il prie dans son coin, sa femme dans son coin. 20 ans. Parlez aux gens qui n'ont pas d'enfant, mais c'est une... J'en ai parlé à quelques-uns. C'est une souffrance terrible, quotidienne. Tu n'as plus envie de vivre. Ils disent, ceux qui n'ont pas vécu ça n'ont pas la moindre idée. Quand tu te maries, tu as un enfant, bon, normal, Baruch HaShem, merci. Bon. On ne se rend pas compte ce que c'est, pas avoir d'enfant. Yitzhak et Rivka, 20 ans n'ont pas d'enfant. HaShem, je ne comprends pas. Tu ne peux pas quitter Israël tellement il est saint. Écoute sa prière. 20 ans. HaShem, pourquoi il ne répond pas? Chazal nous ont dit. HaShem, qu'est-ce qu'il dit? HaShem, il dit, Hashmeini Kolech, c'est un verset de Shir HaShirim. Fais-moi écouter ta voix. Ki Kolech Arev, ta voix est agréable. HaShem, il aime la prière de Yitzhak et de Rivka. Et quelle prière c'était? HaShem, il veut qu'on se branche avec lui. Et il peut laisser 20 ans. Comme ça, Yitzhak et Rivka dans la souffrance, parce que ces prières de souffrance, elles montent très très haut. Nous, on dira, c'est un sadique, quoi. Pas un sadique. Sadique, Ras et Shalom, HaShem. Non, il comprend c'est quoi cette prière, ce chibour, cette relation qu'il y a quand tu implores HaShem. Elle est énorme, elle te branche avec HaShem, elle te branche. Ah, il m'a répondu, mon copain, avec un exemple fantastique. Il m'a dit, c'est un type, il y avait un problème. Et puis aussi, des années, il prie HaShem. Il dit, le rabbin, écoute, monsieur le rabbin, je ne sais pas, moi, je prie tous les jours pour ce truc-là, il n'y a rien qui change. Il dit, viens avec moi. Ils vont à la rivière. Le rabbin prend le monsieur là, il lui enfonce la tête dans la rivière. Plac. Il le tient 30 secondes, minute. Je me noie. Il de nouveau, je me noie. Il me dedans. Enfin, il sort. C'est comme ça qu'HaShem veut que tu pries. Avec ces cris-là. Pas. Bauchata HaShem, Elokeinu, Melokei Avoteinu, allez, donne-moi le parnassa, donne-moi le. Hurle. Ça, HaShem, il aime. C'est dur à dire. Je ne comprends pas, HaShem, quoi. C'est méchant. Bon, HaShem aussi, il est Rahman. Même nos prières bidons, il les écoute. Mais tu parles maintenant de se brancher avec HaShem. Cette prière, ça a un poids. Ça a du poids. Implorer HaShem. Supplier HaShem. Crier HaShem. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Bnei Israël, au bord de la mer Rouge? HaShem, dans une situation terrible, il les met. Qu'on va vivre, messieurs, très bientôt, faut pas rêver. Qu'est-ce qu'il a fait HaShem en sortant d'Égypte? On part pour le désert. Les messagers, les émissaires égyptiens qui sont avec nous, les espions, pour voir qu'est-ce qu'on fait, on a dit 3 jours. Après 3 jours, ils voient qu'on ne revienne pas. 3 jours, ça leur prend de revenir en Égypte. Ils disent à Pharaon que les Juifs, ils sont en train de fuir. Il prend son armée, les rattrape. HaShem, qu'est-ce qu'il dit? Il dit pas, Moshe, vas-y, fonce, va par loin. Reviens. Qu'est-ce qu'il dit Pharaon? Ça garde les Mamidbar. Ils sont perdus, ils sont dans le désert, hein, ils ne savent pas où aller. Et voilà, ils sont perdus, on va les avoir, on va aller. Et toi, tu es dans le peuple d'Israël, c'est pas ce que HaShem veut. Tu suis le, je comprends pas, on repart pour l'Égypte, c'est paniquant. Bientôt, on arrive maintenant, la route, tac, la mer. C'est le soir. Chazal ont dit qu'il y avait des vagues de plusieurs 10 amotes, 100 mètres de haut. Vu la mer la nuit, quelqu'un fait un bain de nuit une fois, va sous l'eau, ouvre les yeux. Tout noir. C'est terrible, c'est même plus sous l'eau, c'est même plus c'est où. Où est le haut, où est le bas? Très dangereux. Tu peux nager pour voler, remonter, tu nages vers le bas et tu vois. Très très dangereux, parce que sous l'eau, tu n'as plus le sens de l'équilibre, savoir où est le haut, où est le bas. Super paniquant. Les femmes, les enfants. HaShem nous a dit, on arrive là, bloqué. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Tout à coup, on apprend l'Égypte. Et les Chazal nous ont dit que Bnei Israël, ils ont vu l'ange de l'Égypte. Concentrationnaire égyptien, c'est comme les nazis, tu vois, la Gestapo qui arrive, mais pas un commando, toute la Gestapo. Dizaines de milliers de soldats. Panique. Vayeru ha'am me'od. Le peuple a eu très peur, terrorisé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Vayitsa'aku el Hashem. Pas ils ont prié à Hashem. Vayitsa'aku, ils ont crié. Pas le faire maintenant devant vous, mais help! Hachem, il ouvre la mer. Il n'y a aucun problème, Hachem. Il peut tout faire. Il veut qu'on l'appelle. Je ne sais pas ce qui va se passer bientôt, mais c'est clair qu'il y a un truc du même type. Où on va aller, je vous dis ça parce que j'ai l'impression que je peux me tromper. Ça va être terrible. On va aller d'échec en échec. Échec en échec en échec. L'ennemi va se rapprocher. Ça ira pas du tout. On est en situation où l'ennemi va dire, on va gagner comme Pharaon. Et là, on va crier à Hachem. Ah, quelle belle prière ça va être. Et quand ça ira plus du tout, c'est marqué qu'ils doivent arriver à Jérusalem, Gog ou Magog. Là, paf, c'est leur fin et la grande victoire. La Géoula. À ce moment-là, il faut prier. Donc, pour revenir ce dont on parlait, Moussard et prière, parce que, un, ça aide pour qu'il nous sauve du Yetzer Hara, de ce monde de fausse réalité. Deuxièmement, quand tu pries comme ça à Hachem, tu te branches. Tu vis avec Hachem, tu es avec Hachem. Tout le monde n'a plus aucune importance. Tu es avec Hachem. Une prière bien faite, une prière qui est en supplication, en imploration, prière du fond du cœur, en larmes à Hachem, ça te branche à une réalité qui existe, ça réveille ton âme. Tu n'as même pas envie d'aller manger, tu es avec Hachem. C'est un grand moyen de se rapprocher d'Hachem. C'est pas tout, mais il y avait une question.
Tous les cas où vous avez parlé, c'est des cas extrêmes en fait. On veut prier avec la voûte, mais c'est que quand j'ai des manques. Je manque ça, alors je fais ça. J'ai quelqu'un de ma famille qui a une maladie, donc je prie comme ça. Mais en temps normal, je vais prier comme ça.
J'ai pris les exemples.
Ils ont prié parce qu'ils étaient sous la mer comme ça. Mais si on avait pu se faire, jamais ils auraient prié d'une telle intensité.
J'ai pris l'exemple pour te dire, c'est comme ça qu'il faut prier, même quand ça va bien.
Alors, c'est quoi le. Comment y arriver?
Se mettre en pression. Comprends que toute ta vie dépend d'Hachem. Quand tu vas prier, qu'est-ce qui va dans ta tête? Je dois faire ci, je dois faire ça, comment faire ça, comment... Mais tous ces trous-là dont tu parles, tu es tellement inquiet que ça réussisse. De qui ça dépend? Qu'est-ce que tu vas faire? Je dois faire comme si. Non, pas toi. Hachem peut tout régler. Alors parle à Hachem. Et là est la bataille. Si la Torah, elle dit, de le servir, l'ordo, c'est avoda, c'est un travail de tout ton cœur. Alors on dit, c'est quoi le travail du cœur? La prière. C'est un travail. C'est facile quand on a mal de crier. On crie, Hachem aide-nous, c'est très facile. Moi, le travail que je te dis, donc, la même prière que tu es capable de faire, quand ça ne va pas, alors même quand tout va bien, tu dois aussi la faire. Et comprends que c'est logique, parce qu'à chaque seconde, on vit grâce à Hachem qui me dit, nous on est habitué à vivre, donc tout va très bien. Il n'y a aucune raison qu'on vive plus longtemps que le type qui est dans le coma à l'hôpital et en danger de chaque seconde de sa vie. Aucune raison. Tu vois bien qu'il y a des gens qui sont paf. Et là, il est plus là, c'est toute la journée, c'est sans cesse, hélas, comme ça, sans crier gare. Alors prie que tu aies la vie, prie que tu aies la vie, les proches de ta vie, prie que tu te rapproches d'Hachem. Il y a tellement de choses qui sont tellement importantes. Donc on est enfermé dans notre monde de mensonges cotonneux, comment dire ça, nous abêtissant. On est complètement abêti. Regarde, tu me connais. Pour moi, ma chère, il arrive dans quelques jours. Mais c'est une évidence colossale. Quelque chose a bougé. Un millimètre. C'est pas une bêtise. C'est-à-dire que ce monde-là, il est tellement mensonger qu'on sait maintenant que tout va changer bientôt et que c'est extrêmement... l'enjeu, il est grandiose, énorme, le plus grand enjeu de toute la création du monde. On n'est pas fichu de faire un millimètre, tellement on est abêti par ce monde, cette fausse réalité. Donc il y a un effort énorme à faire. Et un des moyens, c'est la prière. Alors, je te montre juste que tu es capable de prier comme ça. Tu es capable. Quand tu vois que vraiment, il n'y a plus rien qui peut donner que Hachem. Ok, très bien. Alors, mais la réalité de que celui, le seul qui peut t'aider toujours, c'est Hachem. Elle est quotidienne et constante.
Comment donner de la valeur maintenant aux choses pour lesquelles on ne donne pas, telles que la vie par exemple. On devrait prier tout le monde, pourquoi on ne prie pas pour le foie, enfin, pour une bonne santé, pour la protection de ton etc.
Tout ça, tout ça s'appelle moussard. C'est-à-dire, tout ce que j'entends, c'est quoi le moussard en deux mots? C'est rappeler les choses que nous savons, mais les rappeler à notre conscience afin que nous les vivions de façon plus intense. Tout le monde sait que la vie est essentielle, qu'on tient à un fil, parce qu'Hachem veut bien qu'on vive et qu'il n'y a aucune garantie qu'on vive la seconde d'après. Tout le monde sait qu'on va mourir un beau jour, et on n'y pense jamais. Prends un moussard qui parle de ça, fais-toi des moussards comme je suis en train de vous faire maintenant, ou des bouquins, ou tout seul. Une méditation, une réflexion sur ce sujet-là. Toute ma vie dépend d'Hachem. Chaque seconde, chaque organe, tout fonctionne. Combien je dois le remercier, combien je dois implorer. Tout le moussard, ça veut dire redonner la dimension juste, adéquate, la vraie dimension aux choses. Abaisser le mensonge et remonter la réalité.
Chaya, vous avez parlé du Rav Toledano qui priait pour ses petits-enfants qu'ils aient Yirat Shamayim et tout ça. Normalement, une tefila, c'est personnel, c'est pour sa alia personnelle. Comment c'est Chaya qui nous d'enlever la Bechira à un autre qui soit tzadik, alors que c'est un travail personnel?
Bon, c'est une question un peu hors sujet, mais c'est, oui. c'est pas pire qu'une bracha.
Oui,
Hachem, la réponse, elle est comme ça. Hachem a créé une chose qu'appelle la prière. Que lorsqu'on lui demande, vraiment, une prière sincère, ça a un impact. Qui est grand comme votre Dieu, chaque fois qu'on l'appelle, il répond chaque fois qu'on l'appelle. C'est un des grands cadeaux que Dieu nous a fait, qu'il est prêt, par le fait que tu l'appelles vraiment. Il faut croire que la prière a un impact tellement grand de sainteté dans le monde que ça agit même sur les autres. On fait venir un mérite, c'est comme une bracha. On a une faculté de faire arriver, comme une personne peut pour elle-même amener des mérites qui vont changer son destin, on peut faire ça aussi pour un autre.
Mais au niveau de la Bechira, cette Bechira sera encore plus grande alors.
On va prendre un exemple. Moi, je prie maintenant pour quelqu'un pour qu'il fasse tchouva. D'accord ? Mais lui, il a son libre choix. Ma prière va aider que lorsqu'il aura une tentation de ne pas faire tchouva, elle sera amoindrie. Et la tentation de faire tchouva sera agrandie. Je peux maintenant agir ainsi. Comment je peux faire ? Par la prière, on peut arriver à pas lui faire faire son choix à sa place, mais certainement à l'aider. À l'aider. Pardon ?
Ça
enlève de son propre mérite que moi j'ai mis à la place.
Okay, le moins l'aide pas, au contraire,
pour le ralentir. On va dire comme ça, si quelqu'un a fait tchouva sans mon aide, il aura eu 100 points de gagné. Si je l'aide, on va dire, moi je l'ai aidé de pas grand chose, hein, combien j'ai de 3 points. Il n'aura que 97. Mais je peux te dire, mais sans les 3 points, mon cher ami, il n'aurait même pas eu le 97. Il serait parti dans l'erreur. Donc je l'aide. Et j'imagine qu'Hachem aussi, il fait des calculs comme ça. Il va aider juste ce qu'il faut et pas trop.
Il lui manquait pour faire.
D'abord, des fois, ça ne sert à rien. On voit que tu fais, le type, il fait pas de choix. Donc cette prière va l'aider peut-être pour plus tard, ou ses enfants, ou des proches de la famille. La prière n'est pas perdue. Si maintenant on va dire la prière, elle est inutile, parce que lui, il va faire de choix même sans ça. Je ne pense pas qu'Hachem vient maintenant l'aider en plus, en lui faisant perdre son mérite. Quand, j'imagine, hein, mais je pense que c'est logique, quand Hachem va prendre tes 3 points et les donner à lui, que sans ces 3 points, il n'aurait pas passé. Alors sans les 3 points, il part en cacahuète, c'est dommage. Donc je donne tes 3 points de prière, et grâce à ça, il passe, et lui a droit à son mérite des 97.
Ce sujet, je sais que je me trompe, mais il me semble que les femmes ont une faculté naturelle bien plus grande que les hommes à avoir justement la présence divine dans leur vie. D'où vient cette faculté que nous n'avons pas?
Oui. Les femmes ont Bina et Tera, c'est marqué.
Quelle est la différence ?
Les femmes ont plus de Bina. Bina, c'est une intelligence intérieure. Or, le monde du mensonge, c'est l'extériorité, c'est pas l'intériorité. C'est le monde extérieur. C'est... Intérieur, c'est toujours plus fin et plus proche d'Hachem.
Merci.
C'est plus inné chez elle. C'est clair. Troisième chose, étude de Torah. Donc on a vu moussard, tfila, prière, étude de Torah. Étude de Torah, c'est... D'abord, c'est un très grand bouclier contre le Yetzer Hara, mais c'est un flux de lumière qui vient sur nous. Quand tu étudies la Torah, tu étudies Dvar Hashem, tu étudies la parole d'Hashem. Et quand tout ton esprit et toute ta concentration, elle est dans la parole d'Hashem, ben ça sanctifie, ça purifie. Ça donne la sainteté. La vraie traduction de ta question, c'est quoi la proximité d'Hashem? Sentir sa providence, sentir sa présence, ça s'appelle sainteté. Kedusha. Celui qui a la Kedusha, il a tout. Celui qui n'a pas la Kedusha, il n'a rien. C'est exactement ça, c'est notre but sur Terre. Kedusha signifie proximité. Il y a des termes qui sont des termes synonymes, d'accord? Kedusha, donc sainteté. Proximité d'Hachem. Chayout, vie, intensité de vie. Joie, la vraie joie. D'accord? Providence, proximité d'Hachem. Toutes ces choses-là, c'est la même chose. La Torah, du fait qu'elle est la chose la plus sainte qu'il y a dans la réalité à part Hachem, après Hachem, le fait qu'on puisse étudier nous rapproche beaucoup de la sainteté. C'est un pouvoir de purification, de sanctification, le plus grand qu'il puisse y avoir. Et c'est magique, je veux dire. C'est pas forcément parce que tu dis des choses qui parlent d'Hachem. Quand tu dis des choses qui parlent d'Hachem, c'est encore plus. Quand tu étudies des choses qui parlent d'Hachem, ça te sanctifie encore plus parce que ça, le sujet aussi, il est Hachem. Donc, ça te branche très fortement avec Hachem. Mais même quand tu étudies des histoires de vaches qui ont encorné des bœufs, c'est tellement kadosh la Torah que ça sanctifie aussi. Maintenant, plus l'étude sera faite avec peine, avec effort, plus elle sanctifie, plus que toute autre mitzvah possible et imaginable. C'est comme notre corps. Notre corps, il est bâti de plusieurs parties, d'accord? Quand on parle de relation avec Hachem, on prend toujours l'exemple d'une relation avec une femme. C'est le meilleur apport qu'il puisse avoir que Chazal font. Chez Rachirim, l'histoire d'amour entre un homme et une femme, c'est une allégorie, un exemple de la relation qu'on a, nous, avec Hachem. Quand tu vas connaître ta femme, tu as plusieurs parties de toi qui vont se mettre en contact. Il y a l'amour, et ça, c'est un sentiment. Ce n'est même pas des choses qui sont traduisibles. Tu peux aussi le traduire par un discours amoureux, mais c'est un sentiment. Ça, c'est comme la prière. Tu peux dire un discours, parce que le rabbin t'a dit qu'il fallait dire un discours d'amour à ta femme, mais c'est copié, d'accord? Bonjour ma chérie, et tu penses à Carlo Lulu. Et puis ça peut être tout ton cœur, le trémolo qui sort du cœur, se met à pleurer tellement il est touché, parce que les paroles qui sortent du cœur pénètrent le cœur. Ça, c'est le sentiment. Maintenant, c'est pas suffisant. Il y a toute la connaissance de ta femme. Pour aimer, il faut aussi connaître. Ça va ensemble, tu veux savoir qui elle est. Qu'est-ce qu'elle pense? La connaître totalement. Et ça, c'est dans la relation rationnelle. On va parler, elle va t'expliquer, elle va raconter. Elle va expliquer ce qu'elle pense, elle va expliquer ce qu'elle veut. L'explication de ce qu'Hachem pense, l'explication de ce qu'Hachem veut, ça s'appelle Torah. Et quand tu lis la Torah, tu apprends Hachem. Tu commences à connaître Hachem. C'est ça. C'est Hachem, on ne sait pas qui il est. On sait ce qu'il est, ce qu'il a bien voulu nous dévoiler de lui-même. C'est quoi? C'est sa Torah. C'est sa pensée. C'est tellement grand. Connaître Hachem, par amour d'Hachem, vouloir encore une page, encore qu'est-ce qu'Hachem y pense, qu'est-ce qu'Hachem y pense, et là. C'est une grande histoire d'amour. Les grands rames, les grands sages d'Israël qui étudiaient jour et nuit, comment, c'est quoi, pourquoi, quoi, d'où ça vient, pourquoi, quel est le motif derrière qui les pousse? Un amour d'Hachem, je veux connaître. Quand ils disent que connaître la Torah, mais bon, c'est quoi, tu veux connaître un bouquin, non, c'est un amour d'Hachem, je veux connaître Hachem. Quatrième chose, en conséquence de tout ce qu'on a appris maintenant, le moussard, la Torah et la prière, faire attention, etc. Dans tous les moments de la vie, faire attention aux pièges. Il y a des pièges. Des pièges de fierté qui éloignent Hachem. C'est marqué quelqu'un qui est fier. Hachem dit, lui et moi, on ne peut pas baiser dans ce monde. C'est marqué qu'il repousse l'épée d'Ashrina. Zip, par d'ici. Et c'est un grand piège. Les plus grands tzadikim. Les grands tzadikim se basent sur ça principalement. tu commences à monter. Et là, tu te fais un petit... Je ne suis pas si mauvais. Peut-être même un des meilleurs. Et à ce moment, tu te redresses un interdit grave la Torah de fierté. Et Hachem, il est à 1 000 000 de milliards de kilomètres. C'est dur, c'est une bataille très, la bataille est haute. Mais la Hanava, l'humilité, la Shrina ne se pose que quelqu'un de humble. La Torah t'est donnée sur mon Sinaï parce que c'est le plus petit des montagnes. La Shrina peut se poser qu'à un endroit qui est quelqu'un qui se fait petit. Pas un grand, Moshe Rabbeinu, qui est le plus grand homme, celui sur lequel la Shrina s'est posée de façon la plus... La présence divine s'est posée de façon la plus grande qu'il puisse avoir. Il ne pouvait pas le voir tellement il brillait de Shrina. Il est grand dans son humilité. Humble, humble, humble. Pas je suis un ver de terre, comme m'a dit David. Pas je suis de la cendre, comme m'a dit Abraham Abinou. Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je suis? C'est des niveaux que c'est pas pour nous, il faut pas rêver. Mais ok, un peu moins. C'est écrasé de temps en temps comme ça. Très dur. Très dur. L'autre jour, je raconte qu'après la prière, je vais écouter, il n'y a pas de Kohanim à ma prière le matin, je vais à un autre minyan à côté pour écouter Bekal Kohanim. Je vais dans la Zrat Nashim, j'étudie un peu, et quand Bekal Kohanim arrive, je descends vite pour attraper. Je descends vite, et je vais rentrer, c'est terrible seconde parce que ça commence tout de suite, j'entends la bracha de la fin des Kohanim, puis il y a un gosse qui est à l'entrée qui va lentement. Et ben, j'ai senti la tension qui monte. C'est ça, se faire écraser, être comme ce copain, comme le paillasson qui s'est écrasé par tout le monde. Voilà. C'est dur. On est quelqu'un. Et si on nous fait guili-guili, on va pas que ça nous dérange. Quelqu'un ne va pas dans le sens qu'on veut. On réagit tout de suite. Ouh là là, qu'il y a du travail. Ouh là là, qu'il y a du travail. À la Brit Mila du dernier de mes gendres, est venu un rave. Un grand Talmid Chacham qui écrit pas mal de bouquins très, très, très intéressants. C'est un élève, un des grands élèves de Rav Moshe Shapira, d'une humilité. C'est un monsieur qui en connaît beaucoup, 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 beaucoup. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On l'a invité pour qu'il prenne le bébé et donner tout ça. Elle va prendre le bébé, et tout à coup, qu'est-ce qu'il y a eu? Il devait le prendre. C'est ce qu'il fallait faire à ce moment-là. Puis il y a un truc, quelqu'un a dit, non, pas maintenant, je ne sais pas quoi. Mais c'est une erreur, il fallait le prendre, c'est ce qu'il fallait. Et on leur dit, non, il faut, on doit le prendre. J'ai mis comme ça, genre, dans l'erreur. Mais quelqu'un a dit, un nul a dit. Un imara comme ça qui dit, Rabbi Yosef ben Khalafta, 118 pas Shabbat, Rabbi Yosef Khalafta, il dit beaucoup de choses. À la fin, à la dernière chose, il dit, Rabbi Yosef ben Khalaf, c'est Rabbi Yosef, Stam dans le chasse, que la est toujours comme lui. Énorme. Gematria Elohim Yosef. Un monsieur grand, 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 grand. Il dit, comment il dit? Donne-moi s'il te plaît, Shabbat. Amar Ben Yosef, Miyamai lo avarti adivre chavirai. Jamais j'ai transgressé, j'ai passé outre la parole de mes amis. Yodéani Batsmi Sheni Kohen. Je sais que je ne suis pas Kohen. Imumrimli Khaverai, si mes amis me disent Aïla Duchan, monte faire Brikat Kohanim, Aniole, j'y vais. Je suis pas Kohen. Même pas il répond, j'y vais. Discoupe même pas. Rapla pla. Ça nous concerne nous. Mais si on lui dit, vas-y, vas-y, mais ça va, ça, je suis pas Cohen, mais vas-y, mais je suis pas Cohen. Une réaction normale.
Tu ne peux pas venir quelqu'un
si tu n'es
pas
Cohen, quand même. Eh ben, il y va, ça ne fait rien, il fait comme tout le monde. Une question de Tosot maintenant, excusez la bracha, le mot Bahava, etc.
En quoi c'est être
humble? Hein?
En quoi c'est être
humble? Mon avis n'existe pas. Non, je lui réponds, je suis pas Cohen. Mais vas-y quand même. Mais écoute, c'est rien, enfin c'est pas. Il m'a dit, oui, monsieur, oui, mon commandant, tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite, je m'écrase. Quelqu'un a dit, je m'écrase. J'en parle. C'est on n'a rien à faire là-dedans, c'est comprenez qu'on n'est pas dans des. Rabbi Tzion Abba Shaoul, il attendait, il n'avait pas de voiture, il allait toujours en bus. Il attend le bus, le conducteur de la guette freine, il jette la serviette. Il peut monter, nettoyer la vitre. Mais il est monté, il a nettoyé la vitre. Il dit, non, quoi d'arabe, qu'est-ce que vous faites? Non, jamais de la vie. Il m'a demandé, pourquoi pas? Nous, qu'on a des minutes de minutes, ça va, je suis pressé, là, désolé, pour qui me prend? Ça, c'est la shrina. Il y a du boulot. Bah, ou Hadonai, le Ramangoamé.